Le 30 septembre 653, Recesvint, qui 4 ans plus tôt et à la demande de l'Église avait été associé au trône par son père, le roi Chandasvint, devenait à la mort de celui-ci monarque unique du royaume wisigoth de Tolède. Ce roi Chandasvint a laissé le souvenir d'une personnalité despotique, intrigante, cupide et impitoyable. Intrigant, il passa sa vie à conspirer et finit ainsi, à l'âge de 80 ans, par usurper le trône en déposant le roi qui l'occupait. Et connaissant bien, naturellement, les risques de conjuration qui menaçaient régulièrement la stabilité du trône wisigoth, il se préoccupa de s'attacher une clientèle de fidèles qu'il récompensa en leur distribuant le patrimoine des nobles qui lui étaient prétendument hostiles, patrimoine qu'il confisqua après avoir cruellement tué un grand nombre de ses propriétaires accusés d'infidélité. Et peu tourmenté, semble-t-il, par les scrupules, il ne se borna pas à s'emparer des biens qui lui permettaient d'acheter une clientèle, mais acquit en même temps pour lui-même d'immenses richesses en utilisant une autre méthode qui consistait aussi en de véritables confiscations, mais déguisées sous la forme de donations apparemment volontaires. Il est évident que, dans ces conditions, Recesvint, quand il se retrouve seul gouvernant, recueille un héritage pesant et se trouve ainsi dans une situation très délicate. Et d'ailleurs, avant même la mort de son père, de dangereuses conspirations commencent déjà à se manifester. Et d'autre part, il a été associé au trône, ce qui a faussé la règle légale du système électif officiellement établi par le 4e concile de Tolède en 633. Et cela affaiblit sa légitimité. Cette entorse à la légalité a été proposée par l'Église elle-même pour éviter, dans ce cas, les dangers que représentait une succession élective avec un successeur du clan adverse qui n'aurait pas manqué de procéder à de sérieux règlements de compte. Et aussi parce que Recesvint paraissait de meilleure nature que son père. Mais en échange, il est certain que l'Église lui demanda d'agir de façon à ce que la transition se fasse de la façon la plus tranquille possible, et pour cela, il fallait calmer les passions. Autrement dit, il était indispensable de réparer les maux imputables à la cupidité de son père. Alors, pour régler ce problème et corriger aussi les conséquences d'abus commis par Chandasvint dans d'autres domaines, Recesvint décide de réunir un concile général, le 8e concile de Tolède, cette même année, 653. Chose curieuse, dans le tomus que Recesvint présente à l'Assemblée et qui contient les questions politiques sur lesquelles le roi lui demande de se prononcer, il ne mentionne pas de façon précise, comme il le fait pour d'autres questions, le problème des confiscations abusives commises par son père. Il se contente de demander aux membres du concile de s'intéresser à toute information qui leur parviendrait concernant d'éventuelles injustices et de décider, avec son accord à lui, de façon juste et raisonnable. Alors, il va s'en suivre une solution en 3 étapes. Dans un premier temps, ces membres du concile, qui sont les évêques, aussi des abbés des grands monastères et les illustres seigneurs de l'office palatin, rédigent un document intitulé « Decretum Judici Universalis Editum in Nomine Principis ». Celui-ci contient leur décision accompagnée d'un exposé circonstancié de la situation. Je tiens ici à préciser que j'emploie volontairement le mot « décision » et non pas le mot « suggestion » comme le voudrait Zeumer, qui soutient que l'expression « editum in nomine principis » signifie « adresser, suggérer, présenter au prince ou au roi ». C'est une traduction, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, c'est une traduction indéfendable quand on examine l'emploi du verbe « edire » et de l'expression « editum in nomine alicuius » dans les textes contemporains. Par conséquent, il faut traduire « décret du tribunal général promulgué au nom du prince ». D'ailleurs, c'est ce qui correspond à ce qu'a demandé le roi dans le tomus, que le concile décide avec son accord. En second lieu, le roi dicte une loi qui, malgré des déclarations d'intention paraissant s'adapter à la ligne indiquée dans le décret, contient en réalité des dispositions originales en ce qu'elle contemple des solutions non envisagées par le Concile et ne retient qu'une partie de celles qu'il avait prévues sans faire allusion aux autres. Et enfin, en dernier lieu, le Concile expose en résumé, dans son 10e canon, un compromis des décisions antérieures. Cependant, il prend soin de préciser sa décision d'inclure dans les actes du Concile les deux documents, le décret et la loi, auxquels il accorde la même force obligatoire. Donc, Recès XX, une fois seul sur le trône, avait pris l'initiative d'engager sa responsabilité pour réparer les abus de différentes natures commis par son père. Pour ce qui touche à sa responsabilité patrimoniale, les plaintes et revendications auxquelles il se trouvait confronté ressortent assez bien de l'exposé de la situation contenue dans les textes cités, en particulier dans le décret. Le texte parle de pouvoir oppresseur, de législation injuste, s'acharnant d'un côté à punir très sévèrement les moindres fautes et favorisant de l'autre les confiscations. Il rappelle qu'on a vu certains rois amasser d'immenses fortunes personnelles à force de saigner leur peuple, et ce qui est plus grave, ces gains ne profitent pas au royaume, mais au seul patrimoine privé de ces rois qui en disposent en faveur de leur descendance. Ainsi, les protestations exprimées dans le décret par les membres du Concile visent autant le fait que les confiscations n'ont pas servi à augmenter, comme ils disent, la gloire du royaume, que l'injustice des spoliations qu'elles supposent. Cela s'explique sans aucun doute par le fait que certains rédacteurs du décret ont été lésés par la politique de Chandas XX. Ce sont les seigneurs de l'office palatin, qui ne sont pas les nobles dépossédés et ruinés par les confiscations, mais les ducs, les comtes et autres dignitaires chargés des différents services de l'administration centrale et qui estimaient, en tant que tels, avoir droit à profiter des richesses obtenues par le pouvoir royal. La loi, de son côté, contient la reconnaissance, de la part du roi, de la cupidité des rois précédents qui ont pillé leurs sujets afin d'accroître leur patrimoine personnel en leur extorquant des donations. Mais aucune allusion au fait que ces confiscations déguisées n'aient pas été utilisées au bénéfice du royaume. Et enfin, le canon 10 du Concile mentionne simplement, et condamne ainsi de façon indirecte, le comportement impitoyable des gouvernants, leur concupiscence et la pratique des donations forcées. Et plus loin, condamne aussi le fait de ne pas consacrer les dons légalement reçus par le roi, de ne pas les consacrer avant tout à l'intérêt général. Alors, pour résoudre le problème posé par cet ensemble de mots et d'abus évoqués dans ces différents textes, le Concile et le roi adoptent les décisions suivantes qui correspondent logiquement à leurs préoccupations respectives. Le décret commence par quelques considérations d'ordre général qui servent de simple introduction à la décision qui va suivre. Il dit que tous les biens que les rois n'ont pu acquérir que parce qu'ils occupaient le trône doivent être considérés comme une contribution, tantôt volontaire, tantôt forcée, apportée à l'autorité qui gouverne le royaume, et par conséquent, le roi les retient à juste titre. Mais pour les utiliser en tant qu'autorité qui gouverne le royaume, et il devra les laisser au royaume. Puis, s'occupant du problème présent, et qui est vraiment ce qui l'intéresse, il établit, en employant l'expression « nous décrétons et désirons » discernimus et optamus, ce qui confirme bien que le Concile décide et ne se contente pas de suggérer, que les biens de tout genre acquis par Chandas XX une fois roi doivent passer à Recès XX. Toutefois, ce fils ne les recevra pas en tant qu'héritier de son père, mais en tant que successeur de Chandas XX au trône de Tolède. Ces biens serviront à donner à chacun ce qui lui est dû, c'est-à-dire à rendre ce qui a été extorqué et abusivement acquis. Le reste devra être utilisé au bénéfice des sujets que le roi choisira, dont certainement les membres de l'office palatin. Les biens propres de Chandas XX, ou justement acquis avant de monter sur le trône, font partie de son patrimoine privé. De même que les biens justement acquis après, par lui-même, après qu'il soit monté sur le trône, et qu'il aurait donné ou laissé en héritage à ses enfants ou à d'autres. De sorte que personne ne pourra les réclamer à Recess 20 quand il procédera à indemniser les spoliés. La phrase qui concerne les biens justement acquis n'étant pas très claire, Zoimer l'interprète de façon différente et pense qu'il s'agit de biens que Chandas 20 aurait acquis avant d'être roi. Là, ici, là non plus, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais cela me semble tout à fait inexact, car, entre autres raisons, le sort de ces biens-là est déjà envisagé plus haut. De sorte que, contrairement à ce que l'on a souvent affirmé, le décret n'établit pas de séparation stricte entre les biens de la couronne, qui comprendraient tous ceux acquis par le roi après qu'il soit monté sur le trône et devraient être obligatoirement utilisé au bénéfice du royaume, et les biens privés du roi, qui se limiteraient strictement à ceux qu'il possédait avant de monter sur le trône. Il admet au contraire que Chandas 20 ait pu disposer librement des biens acquis étant roi, à condition qu'ils aient été justement acquis. Ainsi, le décret établit la responsabilité de Recess 20 du fait des injustices commises par son père. Il lui succède dans l'exercice du pouvoir et en quelque sorte recueille dans ce domaine, comme c'est le cas dans les successions ordinaires, le passif que son prédécesseur a accumulé. Cependant, cette sentence ne pose pas ici une règle générale. Elle s'occupe seulement d'un cas particulier dans lequel la décision s'explique d'autant mieux que si Recess 20 ne répondait pas des dettes de son père, il deviendrait son complice puisqu'il profiterait en tant que fils et héritier de ses gains mal acquis. En résumé, la responsabilité de Recess 20 établie par le décret consiste de façon très nette à rendre tout ce qui a été mal acquis. Et pour ce qui est du manque à gagner des nobles qui n'ont pas eu leur part des acquisitions du roi, la responsabilité apparaît beaucoup plus floue, car il semble qu'une seule phrase envisage cette question, celle qui prévoit qu'avec le reste, avec ce qui restera après les indemnisations, le roi choisira les sujets auxquels il entend venir en aide. Et au fond, puisqu'il peut choisir les bénéficiaires, il est difficile d'envisager la possibilité de réclamation. La loi élaborée par le roi, axée sur le problème des spoliations, des confiscations abusives, s'occupe exclusivement d'empêcher qu'elles ne se reproduisent dans le futur et d'établir et organiser la restitution des biens mal acquis, sans jamais nommer Chandas 20. Elle n'aborde pas la question de savoir comment les rois utiliseront les biens de la couronne au bénéfice du royaume. Et précisément sur la distinction patrimoine privé du roi, patrimoine de la couronne, la loi s'exprime de façon très détaillée. Le patrimoine privé du roi se compose des biens possédés avant sa montée sur le trône et de biens acquis après. Dans ce cas, ceux qui lui reviendraient comme à un particulier ordinaire par héritage, et même ceux qui lui viendraient de parents ou de proches par donation ou contrat. Enfin, les biens acquis par les rois depuis le règne de Suintila et laissés par eux à Bentestat passeront à leur successeur au trône, c'est-à-dire à Recess 20. Mais celui-ci en aura la libre disposition. Manœuvre qui permet à Recess 20, sous prétexte d'indemniser les victimes de prétendues exactions commises par ses rois, de diluer d'une part les fautes de son père et de compenser aussi tout ce que vont lui coûter les indemnisations auxquelles il doit procéder. De cette manière et sur la base de cette disposition rétroactive, Recess 20 peut réclamer ses biens aux descendants des quatre rois précédents comme appartenant à la couronne, mais lui-même pourra les faire passer dans son patrimoine privé. Par conséquent, Recess 20 limite sa responsabilité et celle éventuelle des futurs occupants du trône à la réparation des confiscations abusives, des extorsions commises par les rois. Cependant, si le roi auteur de tels abus est considéré responsable, ce n'est que sur le plan moral, car il n'est pas obligé juridiquement de répondre de sa conduite. La réparation n'est envisagée que comme résultat de son repentir. Et si la réparation ne se produit pas du vivant de l'auteur des abus, la loi oblige alors à procéder à la dévolution des biens mal acquis à la mort de celui-ci. Elle rend donc son successeur subsidiairement responsable des injustices qu'il a commises. Mais alors, reste à savoir comment cette réparation va se passer. Si on admet que l'auteur des abus n'est pas juridiquement obligé de les réparer, ben, c'est parce que rien ne peut s'opposer à la volonté du roi, en principe. Mais alors, comment obliger son successeur à répondre pour lui ? En fait, même si la loi est rédigée en termes généraux et pour le futur, elle est d'abord conçue pour régler le problème présent. Chandas XX est mort, donc il ne peut pas réparer lui-même ses méfaits, et son successeur va s'en charger. Bon, dans le cas présent, il n'y a pas de problème. Cette rédaction, qui généralise le cas particulier, permet d'estomper le souvenir et les fautes de Chandas XX. Et pour le futur, la responsabilité du roi est garantie par le serment qu'il devra prêter au début de son règne de respecter cette loi. Finalement, après l'établissement des textes du décret et de la loi, le concile exprime sa position et sa décision définitive dans ses canons 10 et 12. Confirmant les deux textes auxquels il accorde la même autorité, il précise au canon 12 que la violation du décret entraînera l'anathème, ce qui traduit de sa part un effort maximum pour faire respecter son point de vue et une certaine déception quant au contenu de la loi qu'il considère certainement insuffisante. Le canon 10 se présente comme un bref résumé harmonisant les deux textes, sans revenir cependant sur les solutions pratiques concernant la responsabilité de Recès XX ou de ses successeurs en matière de confiscation abusive, estimant sans doute satisfaisantes les mesures prises par la loi. Il se contente d'énoncer les règles générales de comportement que les rois auront à respecter dans le futur. De la loi, il retient l'interdiction faite au roi d'utiliser la violence ou autres moyens pour extorquer les biens de leurs sujets. Pour ce qui est des dons légalement reçus, il rappelle que le roi devra les utiliser avant tout dans l'intérêt de la patrie et du peuple. Et je dis bien avant tout et non pas entièrement, car la phrase suivante indique, à mon avis, et à la différence de ce que l'on prétend habituellement, que la patrie et le peuple devront se contenter de ce que le roi aura bien voulu leur donner. Ainsi, il est bien libre de ne pas tout leur réserver. Le patrimoine privé du roi se compose, comme dans la loi, des biens acquis avant le début du règne et de ceux provenant de ses proches par succession ou donation. Les biens acquis durant le règne et laissés ab intestat iront au successeur au trône. Et le canon rappelle enfin l'obligation pour chaque nouveau roi de jurer la loi. Alors, pour conclure, je dirais que les lignes qui précèdent conduisent à faire quelques observations qui me paraissent intéressantes. D'abord, en constatant qu'il n'existe pas de contradiction entre les textes du décret et de la loi, ce que personne ne dit habituellement, enfin moi j'en suis persuadée, on comprend beaucoup mieux que le concile ait décidé d'insérer dans ses actes les deux textes et leur est accordé la même autorité. Il n'est plus nécessaire, pour justifier cette décision, de recourir à l'explication habituelle qui admettait qu'on pourrait ainsi invoquer, suivant les circonstances du moment, l'un ou l'autre texte, ce qui supposait une solution tout à fait bancale. Si les textes ne sont pas contradictoires, mais que le concile a tenu à les incorporer tous les deux à ses actes, c'est parce qu'ils étaient complémentaires. La distinction patrimoine privé et patrimoine de la couronne, qui dans aucun des textes n'est absolue, sert dans les deux cas à protéger le domaine des biens privés du roi, à rendre ceci insaisissable, et nous pouvons donc servir à garantir la responsabilité du roi. Mais dans le décret, elle sert surtout à attirer l'attention sur les biens de la couronne et l'obligation pour le roi de les utiliser dans l'intérêt du royaume. Alors que dans la loi, cette distinction sert avant tout à protéger les biens privés, le texte n'abordant pas la question de l'utilisation des biens de la couronne en faveur de l'intérêt public et se contentant d'accorder au roi la libre disposition de ses biens. Le concile n'est pas pleinement satisfait du contenu de la loi, son autorité en matière civile étant inférieure à celle du roi, mais au moins équivalente à elle sur le plan moral. Il tente malgré tout par ce biais, sans doute pas d'imposer sa volonté, mais en tout cas de conditionner en pratique celle du roi, qui n'osera pas ignorer ou mépriser le contenu du décret. Et quant au roi, il est vrai que c'est lui qui a décidé de répondre des abus commis par son père, mais il est vrai aussi qu'il y était contraint par les circonstances. C'est-à-dire qu'en droit, il n'était pas obligé, mais en fait, si. Et sa bonne volonté se limite à réparer le strict minimum, c'est-à-dire simplement à indemniser ceux qui ont été si scandaleusement spoliés. En dehors de ça, il est clair que Recesvent, nullement impressionné par l'autorité du concile, n'a l'intention de se laisser imposer aucune consigne sur la façon de gouverner et en particulier d'utiliser les fonds publics. Ainsi, de façon générale, la responsabilité juridique du roi concernant l'utilisation des biens de la couronne n'est pas engagée. Elle ne l'est que moralement en vertu du décret. Elle ne reste engagée à la fois moralement et juridiquement que dans l'hypothèse de confiscation abusive. Et dans ce cas, la responsabilité juridique effective du roi est assurée, en ce qui concerne Recesvent, puisqu'il est l'auteur de la loi qu'il établit, et pour les rois futurs, elle découlera du serment qu'ils devront prêter de respecter la loi, ce qui ne représente pas forcément une garantie très efficace. Je vous remercie.